Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Justice et justicier, ce sont 5 volets sur ceux qui rendent, veulent ou réclament la justice aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, nous sommes en Norvège avec le procès le plus important de l'histoire de la Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale qui s'est achevée le 22 juin 2012 et dont le verdict a été rendu le 24 août de la même année. Il est à la mesure du traumatisme causé par le massacre d'Utøya sur la population norvégienne, si peu habituée à la violence, sous quelque forme que ce soit. Rappelez-vous, c'était le 20 juillet 2011, 69 morts sur une île au large de la Norvège, un massacre commis par Anders Breivik. 10 semaines d'audience, donc, qui pouvaient apparaître superflues puisqu'il n'y a aucun doute ni sur l'identité du coupable, ni sur sa culpabilité, qui devrait seulement, si on peut dire, trancher sur sa responsabilité pénale ou sa maladie mentale et déterminer si Breivik devait être détenu en prison ou interné en hôpital psychiatrique. 10 semaines d'audience assez peu diffusée à la télévision, mais reprise par tous les journaux, transcrite mot à mot et commentée chaque jour ad nauseum pour donner à cette tragédie le temps nécessaire de la compréhension et de la réflexion pour aller dans les détails les plus infimes, entrer dans les discussions les plus pointues et pour accorder aux victimes la place qu'elles méritent, s'attarder sur chaque personne, évoquer leur histoire et aussi leur avenir brisé. 10 semaines pour que jamais le criminel ne puisse dire que son procès a été bâclé, qu'il a été mal jugé. 10 semaines pour que le pays essaie de se remettre sur pied. Après tout, ça n'est pas beaucoup. Nous y sommes donc pour ce volet spécial de justice et justicier, les pieds sur terre, quartier d'été. Il se trouve que c'est une émission qui a été diffusée pour la première fois le 19 juillet 2012.
Nous allons punir les coupables. La punition, ce sera plus de générosité, plus de tolérance, plus de démocratie.
Oslo tingrett skal behandle sak med den offentlige påtalemyndighet mot Anders Behring Breivik.
Le tribunal d'Oslo va à présent procéder à l'instruction de l'affaire qui oppose l'État à Anders Behring Breivik.
Kan jeg få ditt fulle navn?
Votre nom s'il vous plaît.
Anders Behring Breivik.
Anders Behring Breivik.
Når er du født?
Date de naissance
13 février 1979. Vous
êtes donc incarcéré à la prison d'Ila. Oui, c'est ça.
Du er følgelig også uten arbeid.
Vous êtes sans emploi.
Det stemmer ikke.
Non, c'est faux.
Nei.
Nei.
Hva arbeider du med?
Et que faites-vous comme profession?
Jeg er skribent, og jeg jobber fra fengselet.
Je suis écrivain. J'écris depuis la prison.
Ok. Da merker vi oss det. Da kan du sette deg.
C'est noté. Vous pouvez vous asseoir.
Breivik, du ønsker ordet?
Breivik, voulez-vous la parole?
Jeg anerkjenner ikke norsk rett, fordi at dere har fått mandatet deres fra politiske partier som støtter multikulturalisme.
Je ne reconnais pas du tout ce tribunal, ni le droit norvégien, parce qu'il a été constitué par des partis politiques qui supportent le multiculturalisme. Il y a d'abord un tribunal où on a l'impression d'entrer un peu comme dans un moulin, sans même montrer une pièce d'identité. Tout juste un coup de rayon sur les sacs et un mail de présentation. Une cour particulièrement jeune et à quasi stricte parité entre les hommes et les femmes, qui plus est, présidée par une femme. Des audiences qui ce jour-là nous semblent particulièrement détendues, où des psychiatres plus ou moins convaincants se succèdent pendant des heures d'interrogatoire et de contre-interrogatoire. On sourit parfois, on explique et on insiste le tout de manière très pédagogique et précise. Un psychiatre dit au procureur « Je vais essayer de répondre à la question que je crois que vous m'avez posée ». Le débat est technique, d'une bonne teneur philosophique. On se demande ce que signifie que mentir, on se confronte, on examine des notions psychiatriques. Au début du procès, les deux procureurs sont allés jusqu'à serrer la main de Breivik, ce qui n'a pas manqué de choquer. Mais ici, l'idée qui préside, c'est qu'il est inutile de chercher à humilier l'accusé et qu'il faut le respecter, même si le procès ne doit pas non plus être une tribune pour diffuser ses idées. L'état de droit doit l'emporter sur l'horreur meurtrière. La société comme l'individu sont censés mettre de côté leur désir de vengeance pour juger objectivement. Pendant les pauses du procès, les journalistes sont autorisés à enregistrer, filmer, photographier la salle d'audience jusqu'au moment où la séance recommence. C'est là que nous nous sommes installés, en compagnie de Grégory Tervel, le correspondant de Radio France et de RFI en Norvège à l'époque, qui a suivi chaque minute du procès pour vous donner quelques impressions donc et extraits de l'audience autorisée à la diffusion du professeur Einar Kringlen, psychiatre, qui n'a jamais parlé à Breivik, mais qui livre tout de même ses conclusions à partir des rapports publiés par ses confrères. Alors là, on arrive au tribunal où se tient le procès de Breivik, un tribunal flambant neuf, très moderne. Il y a des studios télévision avec des journalistes qui se remaquillent. Il y a une fille absolument étonnante qui a l'air de porter un scaphandre sur le dos. Et en fait, c'est une espèce d'instrument pour s'auto-filmer. Une cafétéria, une salle aussi un petit peu plus loin là, qui est prévu pour les journalistes étrangers, où toutes les audiences sont traduites simultanément en anglais. Aujourd'hui, ce sont des experts psychiatres qui viennent comparaître pour expliquer en quoi Breivik est responsable de ses actes. L'audience va bientôt commencer. Tiens, voilà le procureur.
Lui qui m'a parlé dans pas longtemps. Alors on est dans la salle 250, qui est la salle du procès Breivik. C'est une salle du palais de justice d'Oslo qui a été refaite parce qu'il n'y avait pas de salle suffisamment grande pour abriter un procès comme celui-là. Alors on a l'estrade avec les 5 fauteuils au-dessus, c'est les 5 juges. Alors ensuite, sur la gauche, c'est les procureurs, donc ils sont 2, un homme, une femme. Et donc de l'autre côté, sur la droite, il y a les avocats de Breivik. Breivik est assis à la 2e chaise en partant de la gauche. Ce qui est remarquable dans ce procès, c'est qu'il n'y a eu aucun incident, si ce n'est une seule fois, où c'était le jeune frère d'une victime, c'était un Irakien qui vit en Irak, qui était arrivé 2 jours avant. Et c'était à l'occasion de la lecture des rapports d'autopsie. C'était un moment très compliqué, très difficile, très poignant. Toutes les familles étaient en larmes sur les bancs des accusés. Il était assis juste là, à 5 mètres de nous à peu près. Il était au premier rang des familles. Donc il était à 3-4 mètres de Breivik, pas plus. Et d'un seul coup, il a enlevé sa chaussure, il s'est levé et il l'a lancé en criant et en pleurant. Il était à bout, il était à cran. Il a crié en anglais, puisqu'il ne parle pas norvégien. Il lui a dit « tu es un assassin, va en enfer », etc. Il était immédiatement évacué par les policiers. Et il continuait de pleurer, il continuait de crier « va en enfer ». Il était visiblement à bout, quoi. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul incident de cette sorte. Et c'est assez impensable quand on pense à tout ce qu'on a entendu, à tous les témoignages très forts, au fait que les familles sont ici à 3-4 mètres de Breivik et que chacun a réussi à se contenir. Beaucoup étaient en larmes. Ça a été extrêmement difficile pour beaucoup de monde dans cette salle et personne n'a craqué, dans le sens où personne ne s'est levé, personne n'a interpellé Breivik directement, alors que techniquement dans cette salle c'est tellement facile.
Einar Kringlen, psychiatre.
Han har ett överordnat mål, kamp mot de armenier, vi lägger landet öppet för muslimer. För att hindra detta allt tillåt och så drapa unga människor.
L'objectif de Breivik était de lutter contre l'ouverture du pays aux immigrés musulmans et pour cela, il était prêt à tuer.
Och där som sagt närliggande trekker parallellen till Holocaust.
J'aimerais faire un parallèle avec l'Holocauste.
Det var inte bara Hitler och hans närmaste som var ansvarig för drap av 6 miljoner judar.
Hitler et son cercle rapproché n'étaient pas les seuls responsables de l'assassinat des 6 millions de juifs.
De många som deltog var näppe gav i psykiatrisk förstånd, men trodde på det överordnade mål om judarna måtte utryddas.
Tous ceux qui ont participé n'étaient pas fous au sens psychiatrique, mais croyaient en la nécessité d'exterminer les Juifs.
Det viktig å klart for seg at holocaust og drap av de mange andre skjedde ikke over natta, men gjennom en tiårsperiode fra begynnelsen av 30-tallet, men den endelige løsningen i 1942.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Holocauste ne s'est pas fait en un jour, mais en 10 ans, des années 30 jusqu'à la solution finale.
Slik også med Breivik, som ikke plutselig utførte en ekstrem terrorhandling 22. juli. Det var en uhyggelig tanke som hadde modnet over flere år, hvis vi skal tro ham.
C'est la même chose pour Breivik. L'attentat du 22 juillet n'est pas un acte soudain, mais le résultat d'une réflexion de plusieurs années.
Så Breivik ingen gåte. Vel, i så fall har det vært mange gåter opp gjennom tidene.
Si Breivik fou, alors tout le monde l'est. Le paradoxe, c'est que, en fait, on se retrouve avec un procès où l'accusation essaie de montrer qu'il est malade mental et la défense essaie de montrer qu'il est responsable. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit le contraire.
C'est exactement le schéma inverse d'un procès classique. Alors la défense cherche à montrer qu'il est responsable, ça c'est clair et net. Du côté des procureurs, c'est un peu plus diffus. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont en tête. Ils refusent de prendre position pour le moment. Ils le feront que le dernier jour dans la plaidoirie. Mais dans la façon dont ils posent les questions, etc., soit ils pensent effectivement qu'il est irresponsable, soit ils veulent éclaircir l'affaire au maximum pour être sûr qu'il n'est pas irresponsable. C'est un schéma tout à fait particulier, et ça tient du fait que Breivik lui-même veut être reconnu comme responsable. Breivik veut aller en prison. C'est une situation complètement inverse, puisque d'habitude, l'accusé, s'il a une chance de plaider la démence, il plaide la démence pour aller dans un hôpital psychiatrique où il a un traitement un petit peu plus favorable.
Et ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est qu'en fait l'ensemble de la société va vers ça, c'est-à-dire va dans son sens.
La société norvégienne a du mal à accepter en fait que qu'un homme comme ça qui a préparé ses attaques pendant 9 années, qui a mis tous les détails de son côté, qui a pris soin de ne jamais être découvert par les services de police, par les services de renseignement, qui a été aussi méticuleux dans sa préparation, aussi méticuleux dans le manifeste qu'il a écrit, dans ses idées extrémistes, dans la société norvégienne n'arrive pas à croire qu'un tel personnage puisse être considéré comme irresponsable. Et donc effectivement, le premier rapport qui avait conclu à sa schizophrénie paranoïde avait été assez mal accueilli dans le pays. Et c'est sans doute ça qui a poussé la justice à demander une contre-expertise. Et la contre-expertise est arrivée à la conclusion inverse.
Einar Kringlund, psykiatre.
Nej, som jag har förstått det så är ju detta Knights Templar en orden som han är medlem av.
D'après ce que j'ai compris, les chevaliers des Templiers sont un ordre dont Breivik est membre.
Och det som jag reagerade på i den första rapporten, det var ju det att vissa ting skulle ske när han kom till makten och så vidare, och det virket nog så sprött på mig.
J'ai réagi au fait que dans le premier rapport psychiatrique, il disait qu'il se passerait certaines choses quand il arriverait au pouvoir. Moi aussi, ça me paraissait délirant.
Men eftersom saken har utviklet sig, så bleknar ju detta. Det får lite mer präg av önsketänkning och lite sån pompösa utsagn och så vidare. Och det har inte efter mitt syn karaktär av en vrangföreställning.
Mais ensuite, quand j'ai vu comment l'affaire s'est développée, mon impression s'est adoucie. Cela ressemble davantage à l'expression d'un souhait et à une utilisation de formules pompeuses. D'après moi, ça n'a pas le caractère d'une idée délirante.
Mais hva det du har lagt til grunn når det gjelder organisasjons eksistens eller ikke?
Quelles sont les raisons qui vous poussent à croire à l'existence de cette organisation?
Ja, der har jeg tatt noe stilling til det, men där må jeg bare si det som jeg har skrevet her, mitt inntrykk. Så jeg vet lite konkret om dette.
Je ne peux pas prendre position à ce sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai écrit dans mon rapport, à savoir que je savais trop peu de choses concrètes à ce sujet pour pouvoir me prononcer. France Culture, les pieds sur terre. Donc la dame là, qui vient d'arriver.
C'est la procureure.
Donc là, les policiers, la séance va bientôt reprendre, à mon avis.
Voilà, la séance va bientôt reprendre. Les deux procureurs sont arrivés, l'un des avocats des parties civiles également, et trois des quatre experts psychiatres sont déjà assis.
Et la dame qui arrive là.
Une autre avocate représentante des avocats des parties civiles.
Qui vient de se casser la figure.
Donc il y a un seul caméraman également qui est dans le prétoire, qui sert à filmer, à prendre des plans un petit peu différents, puisque toutes les autres caméras sont des caméras fixes. Il y a 6 caméras, je crois, plus une caméra mobile, qui filme très souvent le visage de Brian Vicky, pour voir comment il réagit à tout ce qui se dit. Il y a une volonté de montrer que le système norvégien, le système judiciaire, va fonctionner, y compris dans un cas aussi extrême que celui-là. Et donc on veut donner à Breivik en fait tous les droits auxquels il a droit en tant qu'accusé pour ne pas qu'on puisse dire que la Norvège s'est vengée d'une certaine manière sur Breivik, etc. Ça c'est vraiment frappant et donc on a vu des procureurs serrer la main de Breivik le premier jour. Et sur la première semaine où il a été interrogé, il est parfois arrivé qu'il y ait des échanges, enfin que ça rigole un petit peu en fait. Entre les deux, Breivik a souvent quelques sourires quand il entend des témoignages et qu'il trouve ça un petit peu incongru, ou il sourit. La dernière fois, vendredi, il y avait un psychiatre qui a livré sa version en fait de Breivik en disant qu'il souffrait de tel ou tel symptôme, etc. Et en disant pourquoi, et Breivik à chaque fois souriait de ce que les psychiatres disaient de lui.
Donc là, la petite trousse, là, et le cahier, c'est des affaires de Breivik ?
Non, c'est les affaires de ses avocats, ça. Breivik, il est assis au premier rang, sur la deuxième chaise. Il a très souvent des feuilles de papier avec lui. Il a un stylo un peu particulier, pour ne pas qu'il puisse en servir comme une arme, en fait. Donc il prend beaucoup de notes. Il prend des notes sur tous les témoignages. Et il liste, en fait, les points sur lesquels il n'est pas d'accord à chaque fois. Et en général, après chaque témoin, il a droit à la parole pour des commentaires assez concis, donc juste 2-3 minutes. Et en général, il ne se prive pas d'apporter son commentaire pour dire point par point, de façon très naturelle et toujours très polie, pour dire un petit peu tout ce qui l'a gêné ou tout ce qui n'est pas vrai dans le témoignage qu'on vient d'entendre, d'après lui, évidemment. Les avocats sont en train de rentrer. On a les 4 avocats de Breivik qui sont ici. Donc ils se réinstallent au premier et au deuxième rang. Breivik ne va pas tarder. Les 4 experts psychiatres sont déjà en place. Les procureurs également. Et on voit pour le moment un seul policier. Il n'y a que 5 policiers en fait dans le prétoire. Aucun n'est assis à côté de Breivik. Le premier est à 2 mètres de lui à peu près. Et ils sont 5 en tout à assurer la surveillance de ce procès. Mais Breivik n'a jamais eu un geste déplacé, il est toujours resté extrêmement calme.
C'est ça qui est encore plus angoissant.
Quelque part, oui. Si c'est un monstre, c'est un monstre froid en tout cas. Il est très normal, enfin, il souhaite apparaître comme quelqu'un de très normal. Très ordonné, très logique, il s'énerve pas, il s'est jamais énervé. Quand il est un petit peu irrité, on sent qu'il est un petit peu irrité, mais là il dit juste « bon, j'arrête de parler », etc. Mais à chaque fois, sans jamais se démonter, et sans jamais élever la voix, je dirais qu'il est dans un rôle de toute façon. Il est ici pour paraître, il sait clairement pourquoi il est là, et il est là pour faire passer ses idées, il est là pour se défendre, pour ne pas apparaître comme quelqu'un de fou. Et toute son attitude est dictée par ça. Il est assez impressionnant dans le sens où il ne se démonte jamais. même quand il est un petit peu bombardé de questions par les procureurs sur tel ou tel point, comme l'existence de son réseau par exemple. Les procureurs ne croient pas à l'existence de son réseau, et lui soutient toujours bec et ongle qu'il existe. Il a réponse à tout, et quand il se mure dans le silence, quand il dit « ça je ne souhaite pas répondre », c'est avec l'excuse, souvent, de ne pas contribuer à des arrestations de ses pseudo-complices ou des pseudo-militants nationalistes comme lui, etc. C'était hier, il avait refusé un test de QI parce qu'il avait peur que si son score était trop haut, ça découragerait d'autres militants nationalistes de faire des attaques comme lui, puisque les autres militants nationalistes se diraient « il faut vraiment être très intelligent pour réussir à faire ce genre d'attaque ». Et donc moi, j'y arriverai pas. Et donc, il a peur de faire le test du QI pour ne pas montrer qu'il est trop intelligent. Ça dit un petit peu l'idée qu'il a de lui-même. Et puis, il n'a jamais montré aucune émotion, aucun regret. Il a pleuré une fois le premier jour lors de la présentation de sa propre vidéo de propagande qu'il avait diffusée sur Internet juste avant de passer à l'acte. C'est le seul moment où il a pleuré. On a entendu des choses horribles pendant 2 mois. Il y a eu des témoignages extrêmement forts, extrêmement émouvants, etc. Et la seule personne dans cette salle qui n'a pas réagi d'une manière ou d'une autre, c'est Breivik.
Svein Holden, procureur.
Men hvis vi legger til grunn da, at det, for tankens skyld bare, at det ikke noen organisasjon som eksisterer, men at Breivik da hevder at han har, den organisasjonen har mandat til å utpeke hvem som legitime mål, og at han senere handler i tråd med det.
Pour la seule beauté de la réflexion, si nous partons du principe que cette organisation n'a jamais existé, malgré le fait que Breivik soutienne avoir été mandaté par elle, est-ce que cela changerait quelque chose à votre diagnostic? Einar Kringlund, psychiatre.
Vel, det blir jo diskutert om dette en vrangforestilling, eller om det fantasier og pompøse ytringer og så videre.
La question est ici de savoir s'il s'agit d'un délire au sens psychiatrique ou d'une présentation exagérée.
Og jeg faller jo mer ned på det andre når man ser dette i sammenheng med alt det andre.
Pour ma part, et en considérant l'affaire dans son ensemble, je pencherai plutôt pour la deuxième hypothèse.
Men hvordan kan man egentlig avgjøre om en person lyver eller om det noe han tror på selv?
Comment peut-on déterminer si une personne ment ou si elle est convaincue de dire la vérité?
Non, det vel bare inngående intervju hvor man kryssforhører og går frem og tilbake og hvor man får et inntrykk som kan avgjøre dette.
C'est seulement par un entretien approfondi qui croise les interrogations et à force de persévérance qu'on peut y arriver.
Le voilà qui va arriver. Voilà. Breivik rentre menotté avec les 2 mains devant lui, donc comme d'habitude. Il va s'asseoir à son siège habituel. Costard, cravate, apparence très soignée à chaque fois. Toujours les cheveux gominés, du gel. Toujours une attitude impeccable en fait. Très soigné, très stylé. Il a toujours son collier de barbe aussi.
Ah, il tourne la tête, il se laisse prendre en photo, il fait un petit sourire, il pose, il est dans son rôle là.
À chaque fois, il tourne un petit peu la tête, il regarde un petit peu qui est présent. Donc là, c'est le moment, avant que les juges soient rentrés, où on peut prendre des photos de Breivik. Donc toutes les photos en fait, qu'on voit, tous les extraits vidéo, en général qu'on voit, c'est de ces petits moments avant les pauses, après les pauses.
Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment se passe la médiatisation du procès?
Alors déjà, tous les journalistes ont le droit d'être dans la salle. Pour des raisons pratiques, tous les journalistes ne sont pas dans la salle d'audience. Il y a une salle à côté où il y a une retransmission par vidéo. Donc le nombre de places est limité dans la salle d'audience. Mais il y a quand même plus de la moitié des places qui sont réservées à la presse. Et il n'y a évidemment aucune interdiction sur le contenu du rapport. On peut rapporter tout par écrit, sur Internet, etc. On voit tout ce qui se dit minute par minute, mot par mot quasiment. Donc il y a une très grosse couverture de ce procès-là. Après, pour ce qui est de la diffusion des images et du son, il y a des règles particulières. C'est le tribunal qui a décidé, avant le procès, d'empêcher en fait la diffusion des éléments forts, entre guillemets. Les explications de Breivik la première semaine n'ont pas été autorisées. À chaque fois qu'en fait Breivik prend la parole, ce n'est pas autorisé à la diffusion. Et voilà l'entrée de la cour. Les cinq juges qui entrent, donc tout le monde se lève, on va se lever aussi. Et bientôt la juge va dire que la séance est ouverte, et à ce moment-là, on n'a plus le droit de s'exprimer.
Elle a dit la séance est ouverte.
Mitt lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord.
Les pieds sur terre, quartier d'été, justice et justicier. C'était quelques minutes du procès Breivik, un reportage de Sonia Kronlund et Jérôme Sandelard, réalisé par Emmanuel Geoffroy et diffusé pour la première fois en juillet 2012. Sachez que depuis cette diffusion, Breivik a intenté un procès à l'État norvégien en 2016 pour traitement inhumain. Il trouvait qu'il ne devait pas être à l'isolement. Il a gagné en première instance avant que la Cour suprême norvégienne ne revienne sur sa décision en 2017. Il a donc perdu son procès pour traitement inhumain. C'est Clémence Grosse qui s'est occupée de cette rediffusion à l'antenne et en podcast.
Havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst. Mitt lille land. Der stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst. Mens natten står blek.